France Info. France Info, les informés. Victor Mattet.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ces informés. Après les fameux Grenelles, un Ségur de la santé proposé par Olivier Véran, du nom de la rue du ministère de la Santé, la formule sera-t-elle magique? Un coup de baguette plus qu'un coup de pouce pour l'hôpital public. Le virus circule toujours et nous avec, bilan d'une semaine de déconfinement. Après la crise sanitaire, la crise économique, des faillites annoncées par millions, vers quoi se dirige-t-on? Et puis ce 17 mai, honneur à l'homme du 18 juin, Emmanuel Macron dans les pas du général de Gaulle, le sujet, comment célébrer les défaites courageuses. Voilà, les copies sont distribuées. Vous avez une heure pour plancher ce soir. Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Cécilia Gabizon, directrice de la Street School et du Media Maker. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix. Et Jean-Baptiste Marteau, journaliste et présentateur sur France 2. Bonsoir et bienvenue à tous. À Caen, un Bercy de l'économie, un Orsay de la politique étrangère, un Valois de la culture. En attendant, c'est un Ségur de la santé que propose Olivier Véran. Un plan d'ici cet été, nous dit le ministre dans le journal du dimanche, avec comme priorité des embauches, de meilleurs salaires, une réorganisation des temps de travail, des investissements aussi. Réunion dès le 25 mai avec les partenaires sociaux dans l'espoir d'actes concrets, dit le neurologue François Salacas de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et membre du collectif Interopi.
Dont acte des déclarations d'intention, dont acte du 25 mai. Effectivement, il faut aller très vite parce que maintenant, les soignants ont besoin de ça pour rester à l'hôpital et surtout pour qu'on puisse recruter. Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est de recruter des milliers d'infirmières en France. Et on parle toujours des infirmières, c'est très bien, mais il faut parler des aides-soignants. Et n'oublions pas aussi tous les métiers de l'hôpital sans lesquels il ne fonctionnerait pas, notamment les secrétaires, les personnels techniques, les psychologues. Enfin, l'hôpital, c'est pas simplement des médecins et des infirmières.
Le docteur François Salacas de la Salpêtrière, où s'était déjà rendu Emmanuel Macron avant-hier. Ce Ségur de la santé, on va commencer avec vous. Armelle Le Goff, cela peut être le grand plan santé que le secteur attend depuis des années?
Bah en tout cas, il faut que ça le soit. En effet, il y a un sous-investissement endémique de l'hôpital public depuis des années. Un gel des salaires et des rémunérations des soignants, donc un problème de recrutement au sein des hôpitaux. Une compétition malsaine aussi qui s'est mise en place avec la tarification à l'acte entre public et privé. Et donc, en effet, c'est toute une refondation du système de l'hôpital public qui doit être mise en place aujourd'hui. Et c'est important aujourd'hui, tout particulièrement après cette crise du Covid, parce que on a pu mesurer quotidiennement l'attachement très fort des Français à l'hôpital public. Mais on sait que c'est avec des enquêtes d'opinion qui sont régulières sur le sujet que de toute façon, c'est la santé publique est un des fleurons vraiment de la population française et quelque chose sur lequel les Français n'accepteront pas de transiger.
L'attachement des Français. Cécilia Gabizon, il faut des moyens en pleine crise. On peut espérer que le fameux du fric pour l'hôpital public que l'on entend depuis deux mois au balcon se concrétise?
Oui. Là, c'est évident pour plusieurs raisons. C'est évident parce qu'on en a besoin, parce que la crise du Covid va continuer longtemps, parce qu'elle a montré qu'on avait besoin de la santé et que la santé n'était pas un bien comme un autre. On est dans une politique tout d'un coup où on faisait donc une sorte de fordisme de la santé, donc la tarification à l'acte, pas de stock, enfin tout ce qu'on connaît, et qu'en fait ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça conduit à une santé qui n'est pas efficace. On a comparé les systèmes de santé entre l'Allemagne et la France. Et il y avait un point important là-dessus qui était à pratiquement dépenses équivalentes, enfin proportion de dépenses équivalentes, ça marche mieux en Allemagne, mais aussi parce que ça correspond à des formes d'organisation différentes. Donc il y a de l'argent et de l'organisation, les deux sont importants. De l'argent, il s'est passé quelque chose d'important, on a vu que de l'argent, là où on nous avait répété qu'il y avait de l'austérité, l'orthodoxie financière, etc., on a vu que de l'argent dans la crise, et heureusement, il y en avait. Quelque part, on avait la possibilité de fabriquer, la fameuse planche à billets, de fabriquer de l'argent dans la crise. crise. On l'a utilisé dans une période mortifère, on l'a utilisé pour nous éviter de sombrer. Mais je pense que la suite de ça, c'est d'utiliser cet argent finalement, tout d'un coup quand ça s'est débloqué, cet argent pour créer de la vie. Et la santé va être primordiale et va être bénéficiaire parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas relocaliser ni externaliser. La santé, c'est typiquement quelque chose de propre, local, qu'on doit produire en interne et qui va faire la valeur du vivre ensemble dans un pays, du vivre dans un pays. Donc de l'argent, il y en aura pour la santé, oui.
On va le trouver où cet argent, Jean-Christophe Ploquin ? On ne peut pas le fabriquer non plus à l'infini ?
Bah, c'est exactement la question que je me posais en entendant mes consoeurs. C'est que effectivement, on a tous très envie, d'une part, que il y ait davantage d'investissements dans l'hôpital, et notamment dans l'hôpital public. Il y a ce sentiment de gratitude et de proximité avec le personnel soignant, même pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de passer par les services des urgences ces dernières semaines. Il y a vraiment un sentiment très partagé que effectivement le personnel soignant a réagi et a été en première ligne pour faire face à cette vague. Et donc les attentes qui s'expriment du personnel soignant sont extrêmement fortes. C'est en quelque sorte une pression chauffée à blanc, à la fois par l'effort fourni face à la pandémie, par les manifestations depuis un an, et puis par les frustrations accumulées depuis des années. Et en même temps, c'est effectivement cet argent, où est-ce qu'on va le trouver, sachant que c'est souvent donc des prestations à l'hôpital qui sont remboursées par la Sécurité sociale. Enfin, donc derrière, c'est le budget public, que ce soit celui de l'État ou que ce soit celui qui transite par l'assurance maladie. Donc c'est les poches des Français qui financent aussi tous ces dispositifs. Et donc il y a un énorme point d'interrogation. Alors l'une des clés, c'est peut-être dans les capacités d'investissement qui vont être rendues davantage possibles par le desserrement des contraintes budgétaires, notamment les fameuses règles de Maastricht qui sont suspendues. Donc il y a une sorte de consensus aujourd'hui en Europe pour dire que les dépenses de santé, les investissements dans les services de santé, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, vont devoir être considérablement augmentés et que il faudra les mettre de côté finalement dans la prise en compte des déficits publics. Mais c'est quand même une sorte d'artifice budgétaire qui conduira à faire en sorte qu'on pourra davantage effectivement investir dans l'hôpital public et revaloriser les salaires des soignants.
Et ce plan pour l'hôpital public, on en parle à nouveau après le Fil Info 20h10, Frédéric Beignada.
Les hospitalisations et les admissions en réanimation continuent de baisser en France, mais le nombre de victimes du Covid dépasse désormais les 28 000 décès, 483 au cours de ces dernières 24 heures. C'est l'augmentation la plus importante de ces dernières semaines. Elle est essentiellement due aux décès en EHPAD et autres établissements médico-sociaux. Donc, en revanche, les hospitalisations et les admissions en réanimation diminuent. Les abattoirs lieux à haut risque, plusieurs clusters ont été découverts ces derniers jours, dont un à l'abattoir de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, près d'Orléans, où les 400 salariés seront dépistés d'ici mardi. Nouvelle étape du déconfinement demain avec la réouverture des collèges, mais uniquement dans les zones vertes. Une reprise qui ne concernera environ que 10% des élèves de 5e et de 6e, mais avec un protocole sanitaire strict, masque pour tous et pas plus de 15 élèves par classe. La chaîne d'ameublement Alinéa placée en redressement judiciaire, 2000 emplois sont menacés pour la direction. La crise du coronavirus est venue s'ajouter à celle des Gilets jaunes et de la réforme des retraites.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Victor Mattet.
Un plan pour l'hôpital d'ici l'été, promet le ministre de la Santé, Olivier Véran. Cette question, Jean-Baptiste Marteau, on a vu en début de semaine, Emmanuel Macron, en fin de semaine, reconnaître une erreur dans la stratégie de l'exécutif, annoncer vouloir lutter contre la paupérisation de l'hôpital, alors qu'en début de semaine, on parlait de distribuer des médailles le 14 juillet. Pour vous, c'est un vrai changement de stratégie ou c'est une communication calculée ?
Il y a effectivement un moment de prise de conscience et un changement de stratégie. Vous savez, Emmanuel Macron, il avait déjà annoncé il y a quelques mois maintenant un plan extrêmement vaste, en tout cas très coûteux pour l'hôpital public, avec une reprise en charge de la dette des hôpitaux par l'État. C'était un coût de milliards d'euros dont on parlait ce plan. Et effectivement, on s'aperçoit que c'était un rafistolage de plus malgré ce coût. Parce que c'est vraiment une réforme en profondeur. Si c'est pour mettre encore quelques dizaines de milliards sur la table et que tout ça soit englouti dans un mode de fonctionnement qui aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, est aujourd'hui dépassé, les soignants ne parviennent plus à faire face à la charge de travail qu'ils ont effectuée, effectivement ça servira à rien. Donc c'est une réforme en profondeur. On s'aperçoit en France qu'on a effectivement beaucoup moins de soignants en pourcentage par rapport au personnel total, par rapport aux autres pays européens, notamment à l'Allemagne. Donc il y a aussi tout ça. Et puis la question au fond, c'est de se dire qu'est-ce qu'on attend de l'hôpital public. Et aujourd'hui, l'hôpital public a souvent pallié les défauts, les absences de la médecine de ville, notamment dans certains départements, dans certaines régions. Donc aujourd'hui, l'hôpital doit faire face à toute la misère de France, accueillir tout le monde aux urgences, avec effectivement toujours plus de travail, et des médecins qui n'arrivent plus à faire ce pourquoi ils sont là. Donc, réforme globale, oui, si c'est là, c'est une vraie prise de conscience et ça peut effectivement déboucher sur quelque chose d'ambitieux. Profitons de cette crise pour rebondir. Si c'est un énième plan, comme il en annonce, tous nos gouvernements en annoncent tous les 5 ans, là effectivement, ce sera un coup d'épée dans l'eau.
Avec un élément peut-être paradoxal, justement, si ce plan marche, Armelle Le Goff, c'est qu'on aura enfin un plan pour l'hôpital en plein milieu de la plus grande crise sanitaire qu'on ait connue.
Oui, tout à fait, mais on a vu qu'en 2019, on avait quand même eu une proposition, trois plans consécutifs proposés par le gouvernement. Donc il y a effectivement, c'est vraiment très important de se projeter sur une refondation. Effectivement, la question de l'organisation est extrêmement importante et mes collègues ont évoqué le cas de l'Allemagne, qui a une organisation de la santé qui est régionalisée. Emmanuel Macron, dans les premières ébauches de cette réforme qu'il souhaite, évoquait effectivement un plus fort pouvoir donné aux agences régionales de santé. Donc certes, la situation est compliquée aujourd'hui, la dette risque encore de s'accroître, mais Bruxelles doit présenter fin mai un plan justement d'aide aux États européens de plus de 1000 milliards d'euros. Donc il y aura des priorités à mettre en place et la santé, après cette crise du Covid, doit sans doute être une priorité.
Et le risque, Cécilia Gabizon, c'est que la priorité justement au fil des mois, ce ne soit pas l'économie au détriment de la santé.
De toute façon, il va y avoir une hiérarchisation des dossiers, mais on se rend bien compte, on parlait de l'Allemagne, on se rend bien compte que c'est l'économie qui finance le social, c'est-à-dire que la part de PIB consacrée à la santé en Allemagne et en France sont équivalents, sauf que le PIB allemand est beaucoup plus important, donc ça fait à la fin beaucoup plus d'argent. Faut pas oublier que nous sommes des économies, donc le financement du social se fera aussi par l'économie, donc je crois pas qu'il va falloir choisir l'un contre l'autre. Par contre, dans la réorganisation, il y a deux choses que qui apparaissent dans cette crise. C'est que, un, l'orthodoxie pour l'orthodoxie est une impasse, et une impasse tragique. Deux, effectivement, l'argent va bien venir de quelque part, donc il va venir de l'économie, mais l'argent public peut servir pour dynamiser en termes d'investissement, pas simplement en termes de plan de sauvetage, mais en termes d'investissement pour dynamiser l'ensemble de l'économie, et j'inclus dans l'économie réciproque, l'économie solidaire, l'économie de la santé, l'économie sanitaire. On va devenir des démocraties sanitaires, des économies sanitaires. En fait, l'économie n'est pas un gros mot. Et on l'a souvent opposé au social, alors qu'en réalité, c'est un ensemble. C'est-à-dire que on peut considérer que l'État aura un rôle moteur dans l'investissement qui fera repartir le fonctionnement du pays au global. Et la santé fait partie de l'économie. Donc ça s'opposera pas. Maintenant, c'est une façon de concevoir l'investissement et de l'organiser. On a parlé du côté administratif. C'est super important. En France, on a fait finalement un système qui a complètement paralysé. Faut imaginer concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un soignant doit remplir pratiquement une feuille de là j'ai fait ci, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça. Il passe un long moment de son temps d'action à remplir des papiers plutôt qu'à soigner des gens. À quoi sert ce contrôle? Il y a d'autres modèles qui existent en Allemagne, mais pas seulement, également en Hollande, où il y a quelque chose, une organisation de soins à domicile qui s'appelle Burtsorg, qui est très connue et qui marche extrêmement bien, parce que le soin à domicile va être aussi très important dans un pays avec une population vieillissante. Et en fait, c'est complètement décentralisé. Les gens s'organisent comme ils veulent par petite équipe d'infirmiers et ils prennent en charge les patients sans paperasse et ils ne travaillent pas à l'acte mais au résultat, c'est-à-dire à l'accompagnement des malades. Et aujourd'hui, c'est devenu le système de soins majoritaire en Hollande pour les soins à domicile. Donc c'est aussi des formes d'organisation qu'il y a à repenser. Il ne faut pas tout penser en termes de lignes de budget et de comment est-ce qu'on va devoir arbitrer entre les unes et les autres, mais dans un global de dynamisation et d'organisation.
Pour revenir au plan du gouvernement, Jean-Christophe Ploquin, il faut comprendre aussi en sous-texte que le gouvernement, l'exécutif, veut éviter un mouvement social une fois que les soignants auraient le droit de retourner dans la rue.
Oui, je pense que le risque est vraiment très grand qu'il y ait un retour de bâton après cet effort extrêmement important consenti par les soignants, dont on sait que certains ont péri dans la bataille, en quelque sorte. Donc il y a vraiment eu un investissement extrêmement fort. Et si le plan du gouvernement n'est pas à la hauteur de ces efforts consentis, on sait qu'il y a déjà des mouvements qui étaient organisés au sein de l'hôpital et qui portaient très fort des revendications. Et effectivement, il y avait déjà une première tentative de réponse lorsque Agnès Buzyn était encore ministre de la Santé. Et donc je pense vraiment que le défi pour Olivier Véran et pour le gouvernement est très important sur ce sujet. J'entends effectivement mes collègues qui parlent d'une refonte totale de l'organisation de la santé en France. Ça veut dire, quel rôle pour les agences régionales de santé, dont on a senti qu'elles avaient à la fois, pour faire face à la pandémie, parfois un rôle structurant important, mais parfois elles se sont révélées aussi un élément de blocage. Donc on a tout un système d'organisation de la santé en France qui est très administré et qui peut-être a posé des freins et qui n'a pas permis, en tout cas aussi, d'anticiper et d'être prêt au moment où la pandémie s'est déclenchée. Je trouve que c'est finalement là où il y a une différence très sensible entre la France et l'Allemagne, c'est que en termes de masques, en termes de tests, etc., il y avait visiblement du côté français, nous n'étions pas prêts.
Et première réunion avec les partenaires sociaux sur ce plan santé, ce Ségur de la santé, ce sera le 25 mai. Le bilan de cette première semaine de déconfinement dans les informés juste après le fil info. Vous restez avec nous 20h20, Frédéric Beignada.
Pour la communion, allumez vos feux de détresse. Une première en France, une messe driving dans sa voiture pour éviter toute contamination au Covid-19. Elle a eu lieu ce matin sur le parking du hall des expositions de Châlons-en-Champagne dans la Marne. Célébration organisée avec l'accord des autorités locales et du préfet. Le retour progressif à l'école avec la rentrée pour les 6e et 5e dans les zones vertes demain. 150 000 élèves vont retrouver le chemin des classes avec quelques obligations, port du masque obligatoire, distanciation physique. Et pas plus de 15 élèves par classe. Dans une interview au Journal du Dimanche, Olivier Véran promet un plan hôpital pour l'été. Revalorisation des salaires, programme d'investissement, réorganisation des soins et un cadre beaucoup plus souple au temps de travail. 145 morts du coronavirus de plus en Italie, bilan quotidien à nouveau en baisse et surtout au plus bas depuis le 9 mars. L'Italie, troisième pays le plus endeuillé au monde, avec près de 32 000 victimes. En Israël, le Parlement approuve le gouvernement d'union entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz. Benjamin Netanyahou, pour qui il est temps d'annexer des pans de la Cisjordanie occupée, l'un des projets de ce nouveau gouvernement israélien. En Israël, où le corps sans vie, l'ambassadeur de Chine a été retrouvé ce matin dans sa résidence de la banlieue de Tel Aviv. L'hypothèse criminelle semble écartée.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Le déconfinement amorcé depuis lundi. Quel bilan de cette première semaine, Jean-Baptiste Marteau ? Est-ce que vous êtes là, Jean-Baptiste ? Avec nous ? Non, Jean-Baptiste Marteau n'est pas là. Je me tourne vers vous, Armelle Le Goff. Alors, ce bilan de cette première semaine de déconfinement.
Il semble que pour l'instant, le nombre de cas d'entrée à l'hôpital ne soit pas en augmentation. Donc, ça semble être un bilan pour l'instant, même si les épidémiologistes parlent d'une possibilité de mesurer les conséquences de ce déconfinement en fin de semaine qui se passe plutôt relativement bien. Maintenant, c'est toute la question, c'est comment effectivement reprendre une vie sociale et professionnelle en veillant à ne pas relancer le virus. Donc aujourd'hui, la grande différence par rapport au 16 mars et à la décision de confiner le pays, c'est la capacité de diagnostic, la réactivité, et on le voit là avec les nouveaux foyers de contamination qui ont été identifiés sur le territoire, que tout de suite les tests sont mis en place et les autorités sont vraiment, enfin réagissent assez rapidement. Dans tous les cas, quand on parle de deuxième vague, il semble quand même que l'acceptation sociale était arrivée à un point peut-être, enfin vraiment, où il était plus possible de maintenir un confinement, qu'il y a la nécessité économique de reprendre. Le point noir quand même de cette semaine et des semaines qui viennent, c'est que les écoles n'ont pas véritablement rouvertes et que ça a un impact sur l'activité économique. Aujourd'hui, on parle d'à peu près un élève sur cinq qui a repris l'école. On va avoir normalement la réouverture des collèges demain lundi. Mais il y a quand même une difficulté pour les Français de reprendre une activité si les écoles restent fermées à plus ou moins... long terme.
Et les chiffres ce soir, 483 nouveaux décès en France, plus de 28 000 morts au total et des foyers de contamination qui ont été identifiés ici et là, notamment dans des abattoirs près d'Orléans et en Bretagne. Il faut donc vivre avec le coronavirus, Jean-Baptiste Marteau, en voyant comme ça des foyers épidémiques arriver ici et là.
Exactement. Vous savez, il y a encore une semaine, j'entendais tout un tas de Français qui nous disaient « Je ne sortirai pas de chez moi, je ne reprendrai pas une activité tant qu'il y aura le moindre risque. » Et on se rend compte évidemment que c'est bien joli, mais c'est complètement impossible parce qu'il va falloir comme ça apprendre justement à vivre avec ce virus jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin ou en tout cas un traitement extrêmement efficace, donc dans au moins plusieurs mois. Donc, j'ai l'impression que là, c'est peut-être petit à petit un changement de mentalité qui est en train d'intervenir pour tout le monde. On prend conscience que oui, il va falloir vivre avec ce virus, avec ce risque. Et donc, le risque zéro ne sera jamais le cas. Et donc, effectivement, il faut retourner travailler, remettre ses enfants à l'école en prenant le plus de précautions possible. Et d'ailleurs, moi, je pense que les gens, globalement, que j'ai pu voir, que ce soit au travail, dans les transports, dans la rue, sont responsables. Ils sont quasiment tous masqués. Ils font attention. Les gestes barrières sont maintenant très bien inculqués et mis en pratique par tout le monde. Donc, voilà, il faut maintenant accepter le fait que nous vivons dans un monde à risque qui va durer comme ça pour plusieurs mois. Et bien sûr, l'objectif, notamment pour les scolaires, c'est de préparer la rentrée. Parce que là, c'est évidemment, on reprend de manière très partielle, petit à petit, quelques classes. Mais le but, c'est qu'en septembre, tous les élèves puissent retourner à l'école dans les meilleures conditions possibles avec ce virus qui sera toujours là.
Et on voit aussi le discours du gouvernement, c'est Célia Gabizon, Christophe Castaner qui hier menaçait d'un reconfinement. Si le déconfinement se passait mal, en clair, ce sera de notre faute, quoi. Il faut être des bons élèves.
Oui, alors c'est une discussion qu'on avait d'ailleurs eu vous informer sur le côté enfin ce qu'on pourrait percevoir aussi un peu comme de l'infantilisation, mais c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas simple, voilà. Mais oui, il y a toujours la menace. Je pense que enfin à mon avis, elle marche pas parce que finalement les gens sont déjà très effrayés. Moi, j'ai été assez frappée. Je voudrais revenir sur un aspect plus psychologique de cette première semaine de déconfinement. Les gens sont très effrayés. Ces deux mois ont pesé vraiment, le décompte morbide tous les jours. Et il y a une grande peur. On a parlé des gens qui ne voulaient pas sortir de chez eux, le syndrome de la cabane, ce que les Américains appellent aussi le FOGO, le fear of going out. Ça concerne en fait pas mal de gens, évidemment on peut pas le chiffrer, mais le niveau d'inquiétude est très élevé quand on voit aussi le nombre de parents qui ne veulent pas renvoyer leurs enfants à l'école, qui hésitent à reprendre le travail. En fait, aujourd'hui, il y a de la méfiance, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, et c'était très prégnant dans cette première semaine. Donc en plus, avec toutes ces injonctions très contradictoires qui sont d'un côté « faites attention » et de l'autre côté « il faut travailler quand même, il faut prendre les transports en commun quand même, il faudrait aller à l'école ». Donc en fait, on est dans un moment de contradiction, d'injonction pesante, et je ressens une très forte lassitude, une inquiétude aussi. Et j'ajouterais aussi une fracture régionale pour l'avoir expérimenté. Pour mon travail, j'ai pu donc me déplacer de Paris à Marseille. très, ambiance complètement différente, et c'est intéressant de le voir. Je généralise, et probablement toute généralité est fausse, mais ambiance très différente dans des régions où le virus a moins circulé, l'atmosphère est beaucoup moins pesante, on ressent beaucoup moins ce qu'a été l'enfermement et l'inquiétude de la contagion. Donc une fracture régionale aussi très importante sur les comportements, sur le ressenti. Donc on est en train de gérer, elle est à la fois psychologique, économique, et elle va être politique, cette fracture. Parce que le confinement, quelque part, nous avait tous mis à égalité, même si on était très inégaux en fonction de son travail, etc., devant la situation. Mais le déconfinement fait exploser ça et gère des situations très différentes en fonction de là où on est, de sa situation avec ses enfants, de son inquiétude. Donc c'est une semaine compliquée. Mon impression est que petit à petit, notamment concernant l'école, même les parents qui ne souhaitaient pas remettre leurs enfants à l'école, il y a une évolution en fait là-dessus, c'est-à-dire que on s'habitue à l'idée que le virus va être là longtemps et que quelque part il va falloir que la vie reprenne dans ces conditions-là. Et donc les mentalités sont doucement en train d'évoluer. Je parlerai aussi du récit des parents qui ont pu remettre leurs enfants à l'école, qui ont voulu et qui ont pu, et qui renvoient. Alors évidemment, chaque récit doit être différent.
On va laisser Cécilia Gabizon, Jean-Christophe Ploquin dire un mot avant de retrouver la météo et l'info, si vous le voulez bien. Jean-Christophe Ploquin, votre regard, vous, sur ces premiers jours de déconfinement?
Alors, moi, j'approuve vraiment tout la présentation qu'a faite Cécilia Gabizon. Je voudrais juste ajouter un élément. Effectivement, j'ai l'impression que chaque foyer français est un cas différent. Effectivement, le rapport à l'école, le rapport au travail, fait que finalement chacun doit se poser la question un petit peu la façon dont le conjoint travaille ou pas. Enfin voilà. Donc cette grande diversité des situations et finalement une certaine responsabilité qui est laissée par le gouvernement finalement à chacun des foyers pour déterminer effectivement quelle position il prendra, et évidemment ça dépend aussi du choix des entreprises. Mais je voudrais juste en un seul mot un petit mot très sympa. Je crois que ce week-end, ça a été le week-end où les grands-parents ont retrouvé leurs petits-enfants. Alors c'est pas le cas de tous les grands-parents ni de tous les petits-enfants, mais il a fallu pour ça qu'ils surmontent pas mal d'appréhensions, qu'ils se posent beaucoup de questions, et que les enfants qui étaient au milieu se posent la question, est-ce que les petits-enfants ne vont pas contaminer les grands-parents? Eh bien, il y en a beaucoup qui ont sauté le pas et je crois qu'ils en sont très heureux.
C'était effectivement un bon mot. Jean-Christophe Ploquin, Jean-Baptiste Marteau, Cécilia Gabizon, Armel Le Goff, vous restez avec nous, la suite des Informés. Après la météo et l'info, Jean-Michel Golinski.
Les jardiniers peuvent dès à présent dormir sur leurs deux oreilles. Nous sortons de la période de gelée blanche en campagne qui a sévi jusqu'à dernièrement dans la moitié nord du pays et nous entrons, du moins pour la semaine, dans une gamme de températures qui d'ici à mercredi vont afficher des valeurs moyennes de 25 degrés au nord comme au sud, voire même jusqu'à 28 ou 29, notamment sur l'Anjou, dans l'intérieur de la Bretagne, en basse vallée du Rhône et au sud de la Garonne, le tout accompagné d'un ciel souvent tout bleu avec possiblement des grisailles éphémères au réveil vers les côtes de la Manche et sur le Pays Basque, le maintien d'un mistral et d'une tramontane assez sensibles et la persistance d'un temps instable avec averses, notamment demain sur les Alpes et surtout sur la Corse où les précipitations seront souvent marquées en seconde partie de journée.
Jean-Michel Golinski, Météo France, bienvenue sur France Info, il est 20h30. Emmanuel Langlois pour l'info. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Victor, bonsoir à tous. Plus de 28 000 personnes sont mortes du Covid-19 en France depuis le 1er mars, dont 483 ces dernières 24 heures. Voilà pour le bilan fourni comme tous les soirs par la Direction Générale de la Santé. La hausse la plus importante concerne les décès en EHPAD. En revanche, les hospitalisations et les admissions en réanimation continuent de baisser. Le bilan quotidien des décès au plus bas, cette fois depuis le mois de mars, au Royaume-Uni, où le pays a enregistré 170 morts supplémentaires en 24 heures. Le gouvernement britannique qui débloque ce soir près de 100 millions d'euros supplémentaires pour soutenir la recherche d'un vaccin. En France, la SNCF a vendu 140 000 places dans ses trains pour l'été depuis vendredi, ouverture des ventes. Sur ces trois jours, les chiffres représentent une moyenne identique à ceux de mai 2019. À propos des destinations, le quart concerne la Provence-Alpes-Côte d'Azur, 14% le Sud-Ouest, 12% la Bretagne et 11% le Languedoc. Tous les billets vendus pour l'été seront échangeables et remboursables. À l'étranger, Emirates envisage de supprimer environ 30 000 emplois, soit 30% de ses effectifs. Il s'agit de réduire ses coûts face à l'épidémie. La compagnie de Dubaï envisage également d'accélérer le retrait des Airbus A380 de sa flotte. Un signe d'un retour à un semblant de normalité en France, Emmanuel Macron a effectué son premier déplacement depuis plus de 2 mois qui n'était pas consacré à la lutte contre le Covid-19. Au centre du Clairon et de la Marseillaise, le chef de l'État a célébré ce matin dans l'Aisne l'esprit français de résistance. Il a lancé un appel vibrant à l'unité des Français, invoquant l'esprit du général de Gaulle. Et puis, à huis clos et sans briller, le Bayern Munich assure l'essentiel pour sa reprise après 2 mois de pause forcée. C'est du football. Le Bayern qui s'impose 2-0 sur la pelouse de l'Union Berlin.
Emmanuel Langlois, 20h32.
20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet.
Les informés du dimanche soir, ils sont toujours avec nous. Cécilia Gabizon, directrice de la Street School et de Media Maker. Armel Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Et Jean-Baptiste Marteau, journaliste et présentateur sur France 2. La crise économique accompagne bien évidemment la crise sanitaire. On a appris aujourd'hui que l'entreprise de meubles Alinéa déposait le bilan. Et elle ne sera pas la seule dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Christian Saint-Etienne du Cercle des économistes était ce matin l'invité de France Info.
Il y aura un grand nombre de faillites, malheureusement. Il faut essayer de limiter le nombre. La politique mise en œuvre de chômage partiel a caché pour l'instant les effets de cette crise. Si vous voulez, c'est comme si on avait mis l'économie française sous cocon. Mais malheureusement, avec le déconfinement, ça va être la sortie du cocon et il va y avoir la multiplication de faillites de ce type.
Ces faillites, ces dépôts de bilan, on ne va plus pouvoir les compter. Armel Le Goff, à l'image du virus, si j'ose dire, il va falloir vivre avec.
Sans doute. Enfin, Emmanuel Macron aujourd'hui était dans l'Aisne et on l'a entendu échanger avec un maire du département et lui dire juste ces 3 mots « on va souffrir ». Donc il risque d'y avoir un certain nombre de faillites. Malgré tout, l'État a joué son rôle en mettant en place le chômage partiel pour un coût quand même de 24 milliards d'euros. Je l'évoquais tout à l'heure, Bruxelles doit présenter un plan d'investissement pour les États de l'Union de 1000 milliards d'euros à la fin du mois. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été à l'arrêt, mais qui n'ont pas été totalement à l'arrêt. Les gens ont continué à télétravailler. Il y a quand même des ressources. Le gouvernement a annoncé que les Français pourraient prendre leur congé. Et je pense que c'était extrêmement important pour tout ce secteur d'activité que les Français puissent se projeter et du coup amorcer une sorte de reprise. C'est vrai que on peut pas prévoir non plus à quel moment cette reprise va réellement se faire. Il y a 55 milliards d'euros qui sont bloqués dans les comptes épargne. Il faudrait que cet argent, voilà, soit réinvesti dans l'économie réelle dans les mois qui viennent. Même si effectivement, il y a vraiment des secteurs d'activité qui risquent de souffrir. Je pense à la restauration, au tourisme. Effectivement, si la reprise ne se fait pas cet été.
Mes visions plutôt optimistes pour vous dans l'ensemble, Armel Le Goff, Jean-Baptiste Marteau, il faut se montrer optimiste justement.
Il va falloir, de toute façon, la situation elle est là pour encore plusieurs mois comme le virus. Maintenant, il faut quand même regarder 2 choses. D'un côté, on a eu effectivement ce chômage partiel, toutes ces aides et ces plans d'aide qui sont en train d'être en place, qui est un système extrêmement généreux. On est quand même le système le plus généreux en termes de milliards d'euros depuis le début de cette crise. Comparé ce chômage partiel à ce qui se passe aux États-Unis, au Japon ou encore en Allemagne, on est évidemment très très loin de tout ça. Donc, ça a effectivement permis de peut-être retarder les décisions de faillite qui vont pouvoir être mises en place. Maintenant, il y a des problèmes de trésorerie immenses qui vont se poser pour plein d'entreprises. Et quelles sont celles qui commencent déjà à déposer le bilan? Et c'est le cas de l'entreprise d'ameublement Alinéa. Ce sont des entreprises qui étaient déjà en difficulté, qui avaient des problèmes de trésorerie, qui avaient déjà eu plusieurs plans généralement de restructuration et qui avaient échoué. Donc forcément, dès qu'il y a une nouvelle crise qui survient, après celle des gilets jaunes, rappelons-le, après les grèves pendant les retraites qui avaient pénalisé beaucoup de commerçants, on va forcément vous retrouver retrouver avec des faillites qui risquent de durer. Et effectivement, plus on va s'avancer dans cette crise, plus elles vont être importantes à des secteurs qui jusque-là arrivaient un petit peu à faire face. Mais imaginez un restaurant dans 3-4 mois, s'il n'arrive pas à retrouver son chiffre d'affaires, forcément il va fermer.
Et puis il y a les faillites, il y a les dépôts de bilan, il y a aussi tous les emplois qui vont être détruits au cours des prochains mois, Cécilia Gabizan.
On parle d'une récession de 8%. On a du mal à se figurer ce que ça veut dire, une récession du PIB de 8%. Mais globalement, ça veut dire que un certain nombre d'entreprises vont fermer, que les gens seront vraiment au chômage et sans revenus. Et en plus, en France, on a des secteurs essentiels qui sont très puissants normalement, l'aviation, le tourisme, le secteur culturel, qui sont totalement à l'arrêt. Et qui vont reprendre très difficilement et très lentement, qui sont des secteurs très importants pour l'économie française. Donc c'est il y aura une récession très importante et là pour le coup les plans vont aider à amortir la crise sociale, mais le redémarrage économique va être extrêmement difficile. Ça vient en plus percuter, comme ça a été dit, des difficultés déjà existantes, c'est-à-dire que on était déjà dans une économie un peu toujours en sorte de crise permanente, de transformation très difficile, notamment dans la distribution. On a parlé par exemple de e-commerce, le fait que pendant le confinement, les gens avaient acheté à distance, mais c'est aussi une crise des magasins, une crise de la distribution. Donc en fait, ça vient toucher et percuter des secteurs et des mutations qui se faisaient déjà très difficilement et les accentuer. Si on veut être optimiste, ce qu'on peut se dire, c'est que ça va aussi accélérer des mutations. Le problème, c'est qu'au passage, ça touche beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'être nommés eux-mêmes mutations. Ça va accélérer des mutations, des transformations de l'économie qui étaient en cours et qui là vont être, en fait, en quelque sorte, tous les secteurs vont être obligés de se réinventer beaucoup plus vite et dans des conditions difficiles.
Et la difficile reprise de l'économie, vous en parlez d'ailleurs demain, Jean-Christophe Ploquin dans La Croix.
Oui, c'est ça. Je pense que la situation est très inquiétante. Hein. On est effectivement devant un choc économique majeur pour l'économie française. L'État, pour le moment, a permis aux entreprises d'amortir le premier choc grâce aux mesures de chômage partiel, grâce à des reports de charges, grâce à des prêts garantis qui ont permis de soulager la trésorerie très momentanément. Mais dans les prochains, ce dispositif ne peut pas durer éternellement. Et donc, effectivement, les entreprises les plus fragiles ne vont pas pouvoir véritablement redémarrer. Elles n'ont plus l'argent pour pouvoir redémarrer. Et donc, le deuxième volet, finalement, de l'aide de l'État, elle va sans doute se porter sur les entreprises qui sont soit dans des secteurs stratégiques, soit qui sont en bonne santé, qui ont des bonnes perspectives de développement, mais qui, donc, ont fait face à un trou vertigineux dans leur trésorerie durant les dernières semaines. Et donc, c'est comment accompagner ces entreprises sur le chemin de la reprise. Et de la part des entreprises, de la part du secteur bancaire, c'est aussi garder une capacité d'optimisme finalement et garder une capacité à chercher de nouveaux marchés et à se préparer finalement pour le moment où la reprise arrivera, où la consommation redémarrera, où les échanges internationaux aussi seront plus développés. Et effectivement, tout à l'heure, je crois que c'était Armelle Le Goff qui évoquait finalement le fait que les Français durant ces deux mois de un peu de confinement finalement ont moins dépensé que d'habitude. Donc c'est une cagnotte d'environ 60 milliards d'euros en deux mois. Et donc voilà, cet argent qui est pour en grande partie sur les livrets A ou sur des comptes d'épargne où l'argent est très disponible, est-ce que il ne faudrait pas l'orienter aussi vers le secteur économique pour apporter là aussi un soutien aux entreprises qui ont besoin de trésorerie pour se reprojeter vers l'avenir.
Oui, reste à savoir aussi s'il sera épargné ou dépensé en temps de crise. Les informés continuent après le fil info. 20h40, Emmanuel Langlois.
Et maintenant, autour des collèges, après le bol d'air de ce premier week-end déconfiné, des élèves de 6e et 5e font leur retour en classe demain lundi dans les régions les moins touchées par l'épidémie de Covid-19. surveillée de près par crainte d'une deuxième vague. Aucun cas grave à ce stade, annonce du préfet du Loiret après la découverte d'un nouveau foyer de contamination dans un abattoir de Fleury-les-Aubrais. L'ensemble des 400 salariés seront dépistés d'ici mardi, annonce l'ARS. Le maire de Fleury-les-Aubrais, annonce sur France Info que les écoles ne rouvriront pas demain dans sa commune. Le Qatar, lui, commence à appliquer les sanctions les plus sévères au monde contre les personnes ne portant pas de masque en public. Elles peuvent aller jusqu'à 50 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Le géant français du petit électroménager Seb va fabriquer en France, à partir de l'été, un vélo électrique haut de gamme. Il sera vendu près de 2700 euros. Le projet n'est encore qu'au stade de prototype. Le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, lui estime qu'Aurélien Taché, démissionnaire du mouvement présidentiel, a cédé à son plus gros défaut, l'individualisme. Il l'a dit tout à l'heure sur France 3. Le député, l'un des marcheurs historiques, regrette, lui, que l'ouverture du parti ne se soit pas faite que vers la droite. Son départ fait tomber l'effectif du groupe LREM à l'Assemblée à 295 députés contre 314 en juin 2017.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Le discours du 17 mai d'Emmanuel Macron restera-t-il dans les annales? Le président de la République dans l'Aisne à la mi-journée pour un hommage au général de Gaulle qui, il y a 80 ans, en mai 40, était encore un jeune colonel inconnu. Son fait d'arme à ce moment-là, la contre-offensive de Montcornet qui n'empêchera pas la débâcle de la bataille de France. Ce dimanche, Emmanuel Macron a mêlé passé et présent. On l'écoute.
Cet homme pénétré de l'amour de son pays, offrit par son exemple et par sa parole sur les champs de bataille, comme bientôt en exil à Londres, sa confiance inébranlable dans le destin de la France. C'est pour cette raison que j'ai tenu à ce que l'année de Gaulle soit lancée ici, sur les terres qui virent renaître l'esprit français de résistance. De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle se tient unie, qu'elle cherche la voie de la cohésion au nom d'une certaine idée de la France qui nous rassemble par-delà les discordes alors devenues accessoires et les désaccords souvent trop vétilleux.
Emmanuel Macron dans l'Aisne, comme souvent dans ses discours, on découvre ou redécouvre des mots vétilleux qui s'attachent à des détails. Dans le détail justement, c'était le premier déplacement du chef de l'État en plus de 2 mois qui ne soit pas directement lié au coronavirus. Mais la crise que nous traversons était en fait bien au cœur de tout ce discours, Armelle Le Goff.
Oui, alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette visite et dans les traces du général de Gaulle, enfin qui était colonel à l'époque, eh bien c'est sans doute une volonté de refonder le discours qui est derrière ce déplacement, c'est ça, et le discours qu'il y a derrière le discours. Le quinquennat d'Emmanuel Macron, il se jouera sans doute sur sa capacité à amoindrir le choc de cette crise économique dont on vient de parler et qui s'annonce et qu'on peut essayer de regarder d'un point de vue optimiste, mais quand même, ça paraît quand même assez compliqué. Concernant, par exemple, le Ségur et la refondation de l'hôpital, à l'Élysée, on laisse entendre qu'il s'agit de la première brique d'une refondation politique d'ampleur. Et l'après 45, c'est De Gaulle, c'est le Conseil national de la Résistance, auquel fait allusion Emmanuel Macron dans son discours, et c'est alors la volonté de reconstruire et de moderniser la France. Et c'est clairement ce qu'Emmanuel Macron essayait de nous dire aujourd'hui.
La France unie, l'esprit français de résistance, effectivement, Emmanuel Macron, finalement, il se sert de De Gaulle et de son esprit pour, on va dire, faire un coup politique, ou il essaye vraiment de se mettre dans ses pages, Jean-Baptiste Marteau?
C'est vrai que dès qu'on traverse une crise, de toute façon, faire appel à De Gaulle et ressortir les écrits du général, c'est toujours, oui, une valeur sûre, effectivement, et ça permet d'éclairer souvent notre présent. Je lisais tout à l'heure quelque chose qu'il avait dit ce jour-là, justement, à Lens, lors de cette bataille de Montcornet. De Gaulle avait dit: ce que j'ai pu faire par la suite, c'est ce jour-là que je l'ai résolu. Et c'est vrai que, bon, pour tout président de la République, faire appel au général De Gaulle, c'est donc indispensable. Maintenant, politiquement, vous avez eu Emmanuel Macron qui vous a sorti la tonalité guerrière en début de crise. Nous sommes en guerre, avait-il dit à 3 reprises lors de sa première intervention sur le coronavirus. Là, maintenant, c'est l'appel à la résistance. C'est la suite, et donc c'est peut-être l'ouverture vers une phase 3, un acte 3 de son quinquennat, parce que l'acte 2 a été assez vite balayé après la crise des gilets jaunes par le coronavirus. Maintenant, toute la question, c'est Est-ce que le président de la République, d'ici 2022, parvient à relancer une vague de réformes, à montrer qu'il est encore capable de réformer, de transformer le pays comme il l'a promis lors de son élection? Ou alors est-ce qu'il est simplement capable, enfin, il ne peut que gérer la suite de cette crise terrible qui s'annonce avec ce virus? Là, c'est toute la question, effectivement. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, faire appel à De Gaulle, ça peut être une manière de montrer, en tout cas, un volontarisme d'aller de l'avant. L'appel à la résistance, c'est évidemment, et puis c'est une année De Gaulle. De toute façon, vous allez évidemment en reparler encore et encore, parce que De Gaulle va nous guider tout au long de cette année 2020. Ça a été un peu éclipsé le 8 mai par la situation actuelle, mais on va beaucoup reparler de De Gaulle cette année.
Je vous le confirme. Autre séquence intéressante, celle où Emmanuel Macron dit à propos du général De Gaulle, on l'écouta trop peu, on l'entendit trop tard. Alors je ne sais pas si on l'écoute ou si on l'entend, Cécilia Gabizon, mais à chaque fois qu'il parle en ce moment, le président, le pays pour l'instant répond présent. Dans cette crise, hein, je précise.
Oui, répond présent. Il y a eu un peu une... Emmanuel Macron a pris la parole, on se souvient de ce discours sur le côté guerrier, etc. Je suis pas sûre que ça soit à chaque fois bien perçu. Il essaye, en fait, il y a une forme de solennité, une tentative de solennité dans ses discours. Et puis finalement, la situation est extrêmement complexe, on en est tous conscients. Mais donc, cette tentative de solennité est ensuite un peu brouillée par finalement la mise en œuvre de ce qui est prévu. Il y avait quelque chose de très important aussi chez De Gaulle, puisque c'est que chez De Gaulle, l'action n'est rien sans une doctrine. C'est la primauté des idées. Et donc, chez De Gaulle, il y a une primauté des idées et même la guerre est en fait la continuation des idées, en l'occurrence l'idée de la France. Et là, ce qu'on ne voit pas bien, c'est-à-dire que invoquer De Gaulle, il y a deux choses, c'est que il y avait une vision de la France, et cette vision de la France, la primauté des idées, on ne sait pas quelle est aujourd'hui la doctrine politique finalement d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Elle est bien sûr bouleversée par la crise, mais on ne l'a pas clairement. Et la deuxième chose, c'est le parallèle avec la résistance. Que serait aujourd'hui la résistance? On est dans une situation où nous, en tant que citoyens, la résistance, c'était des gens, c'était des êtres, c'était des citoyens, c'était des actions individuelles puis devenues collectives. Que serait aujourd'hui la résistance? C'est-à-dire que ce parallèle est compliqué dans une situation où on ne sait pas quelle pourrait être notre action individuelle. On a vu de la solidarité, mais que serait de la résistance? Donc je trouve en fait que ce mécanisme d'appeler à De Gaulle est un peu dangereux, un peu glissant, car la résistance, oui, mais qu'est-ce qu'on attend de nous? Comment pourrions-nous résister? Et la deuxième chose, c'est quelle est donc la doctrine qui nous anime et qui anime Emmanuel Macron?
Ce parallèle avec la résistance, Jean-Christophe Ploquin, il est maladroit?
Moi, j'ai le sentiment que le chef de l'État, Emmanuel Macron, chef de l'État, c'est normal qu'il fasse ses commémorations, effectivement, cette année où il y a beaucoup de dates anniversaires qui permettent de parler de Charles de Gaulle. Il faut se rappeler aussi qu'Emmanuel Macron avait fait toute une séquence historique qui était passée inaperçue à cause du début du mouvement des Gilets jaunes, mais il avait passé plusieurs jours dans l'Est et dans le Nord de la France pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. Donc en novembre 2018, donc on voit bien son souci de s'enraciner effectivement dans l'histoire de France. Cela dit, Emmanuel Macron, chef politique, si on peut dire, je pense qu'il est quand même très éloigné du gaullisme. De Gaulle était quand même quelqu'un qui était souverainiste, qui avait une vision très forte de la France et de la France qui devait maîtriser son destin. Emmanuel Macron, évidemment, est là pour défendre et promouvoir les intérêts de la France, mais il le fait très clairement dans une optique beaucoup plus large et notamment dans une optique européenne qui n'était pas du tout celle de Charles de Gaulle. Et effectivement, je pense que les références historiques, il faut vraiment être très sûr de son propos, parce que aujourd'hui, de Gaulle, finalement, tout le monde récupère de Gaulle, y compris Marine Le Pen, qui justement essaye de le récupérer sous l'angle du souverainisme, alors que le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, a été quand même un opposant extrêmement farouche et appartenait à une mouvance qui était anti-gaulliste. Donc l'histoire passant, chacun se crée son De Gaulle, et celui que Emmanuel Macron a commencé à dessiner aujourd'hui, bien, on voit bien les références, effectivement, cet épisode de Montcornet, d'ailleurs, qu'on a un peu tous redécouvert lors d'un récent film très intéressant consacré à De Gaulle. Mais voilà, chez De Gaulle, il y a aussi une philosophie de l'action, il y a une notion de volontarisme aussi dans l'action, mais voilà, ça ne fait pas un projet. Et le grand défi pour Emmanuel Macron, c'est d'ici la présidentielle dans 2 ans, c'est quelle vision il va pouvoir à nouveau proposer dans un contexte français qui a été marqué par les protestations, les contestations extrêmement virulentes de son action. Et donc voilà, je comprends qu'il cherche à puiser
et en cherchant aussi une incarnation du destin de la France. On va s'intéresser au destin du groupe LREM à l'Assemblée dans la dernière partie des informés dans un instant, 20h51, Emmanuel Langlois.
L'Agence régionale de santé, l'ARS Bretagne, annonce que le nombre de personnes positives au Covid-19 au sein d'un abattoir des Côtes d'Armor atteint désormais 69 cas. Une campagne de dépistage auprès du personnel est planifiée après-demain mardi. La première messe drive-in en France ce dimanche à Châlons en Champagne. Environ 500 fidèles dans 200 véhicules se sont rangés à 1 mètre les uns des autres sur le parking du hall des expositions pour une messe célébrée par l'évêque local. Elle était retransmise en direct pour le son sur la radio diocésaine. À la veille d'un élargissement du déconfinement dont Madrid et Barcelone restent exclus, l'Espagne recense 87 décès liés au Covid-19 en 24 heures. Un chiffre sous la barre des 100 décès pour la première fois en 2 mois. L'image est marquante. En Belgique, des soignants accueillent la première ministre en lui tournant le dos à Bruxelles. Le personnel voulait ainsi protester contre le manque de moyens dans les hôpitaux pour faire face à l'épidémie. Et puis du football, et l'entraîneur du Newcastle qui plaide pour une reprise du championnat d'Angleterre fin juin afin de laisser le temps aux joueurs de se préparer, alors que le gouvernement britannique lui a ouvert la porte à une reprise des compétitions à huis clos dès le 1er juin. Enfin, ce record absolu pour des baskets, une paire de chaussures rouges, blanches et noires Air Jordan 1 portées en match par Michael Jordan lui-même est vendue pour la bagatelle de 517 000 euros par la maison Sotheby's. C'était tout à l'heure à New York.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et on parlait il y a un instant de l'unité du pays, cher à Emmanuel Macron, unité qui manque à son propre parti. Le député de l'aile gauche, Aurélien Taché, quitte la majorité. Un groupe de dissidents devrait voir le jour en début de semaine. Résultat, la République En Marche perdrait la majorité absolue à l'Assemblée. C'est quoi? C'est le retour des frondeurs 4 ans après, Armel Le Goff?
Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut surtout pas basculer dans l'opposition. Il se dit déçu par la promesse d'émancipation qu'il avait cru voir en Emmanuel Macron. Après quand même avoir été un collaborateur, par exemple, d'Emmanuel Coss sous la présidence de François Hollande, hein, dans le gouvernement, je pense pas que c'était celui d'Hérault, c'était après.
Manuel Valls.
Donc c'est peut-être pas le retour des frondeurs. En tout cas, c'est un coup dur, hein, pour la majorité, mais dont on savait déjà qu'elle avait quand même des soucis en termes de cohésion, hein. La concorde, c'est pas tout à fait ça au sein de LREM.
Et ça peut pousser justement Cécilia Gabizon, la majorité, le président de la République aussi, à mettre ce coup de barre à gauche qu'on évoquait tout à l'heure?
De toute façon, c'est le sens de ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, peut-être qu'Emmanuel Macron ne l'étiquettera pas comme un coup de barre à gauche, puisqu'il voulait être ni droite ni gauche, mais en ravivant l'idée d'un front uni de la France en marche, en quelque sorte. Mais c'est le sens des événements. On a retrouvé le pouvoir de l'État, l'État social, l'État... En fait, il y a eu plusieurs crises successives. Gilets jaunes, retraite... puis l'épidémie. Mais finalement, à chaque fois, ça a montré quelque part la France de qu'on a appelé ensuite en première ligne, des gens qui ne gagnaient pas leur vie en travaillant. Donc, tout ça a été mis sur le devant de la scène et ces séquences successives ont confirmé les inégalités, le besoin de remédier et de recréer de l'unité en reconnaissant la valeur du travail des uns et des autres. Donc la séquence politique, elle est une séquence politique qu'on pourrait appeler à gauche, mais moi je dirais plutôt une séquence politique d'État, qui est la place de l'État et comment l'État arrive à faire de la cohésion, surtout dans un pays comme la France, qui est un pays qui se divise, qui se déchire, et politiquement aussi. Là, le départ d'Aurélien Taché, c'est... Moi, je trouve que c'est un peu, c'est pas un bon moment pour quitter le navire. Mais quelque part, de toute façon, aujourd'hui, est-ce que le groupe LREM, à lui tout seul, n'obtiendra pas? Il faudra faire du consensus pour gouverner dans l'après-crise Covid. Car tout va être difficile. La France va traverser une situation extrêmement pénible. Donc, peut-être que LREM n'aura plus la majorité, mais de toute façon, ça l'amènera et ça sera une démarche intéressante à devoir composer et créer une politique avec les autres partis. Pratiquement, ce fameux front républicain de gestion d'un pays qui va affronter une crise dramatique.
Vous y croyez, Jean-Baptiste Marteau, à ce front républicain qu'on pourrait voir naître dans l'hémicycle ?
C'est toujours une volonté qu'on peut afficher comme ça en temps de crise. C'est rarement une réalité depuis le début de la Ve République. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron n'aura pas besoin de ça pour avoir une majorité, parce qu'il y a évidemment le groupe Modem et ses alliés comme Agir qui représentent une 50-60 de députés. Donc la première conséquence de tout ça, c'est que ça va renforcer François Bayrou.
C'est symbolique,
son influence. C'est symbolique, effectivement. Je peux vous dire qu'au sein du pouvoir, on se serait bien passé de cette nouvelle mésaventure d'un groupe, un neuvième groupe à l'Assemblée nationale. Pendant cette période. Ça repose quand même la question idéologique du macronisme. Et c'est toute la difficulté depuis le 2017. C'est quoi idéologiquement Emmanuel Macron, à part la synthèse entre la droite et la gauche, et une volonté réformatrice extrêmement forte affichée. Alors, vous savez, il dit Aurélien Taché dans le JDD que toutes les ouvertures réalisées depuis le début du quinquennat, c'était surtout à droite et au centre. Pourquoi ? Mais Emmanuel Macron, il aurait bien aimé une aile gauche forte au sein de la majorité. Il a d'ailleurs tenté quelque chose autour de Jean-Yves Le Drian avec très très peu de résultats. Parce que malheureusement pour lui, la gauche aujourd'hui, en tout cas la gauche, je veux dire réformatrice, centre-gauche, est toujours convalescente politiquement, plus encore que la droite. Et ça va être toute la difficulté, ça s'est vu pendant le quinquennat de François Hollande, cette tentation d'une aile gauche de s'émanciper, avec souvent assez peu de résultats. Le seul peut-être qui a réussi à s'émanciper jusqu'à la présidentielle, c'était Benoît Hamon, avec le résultat qu'on connaît.
Pas de gauche au sein de la majorité aussi, parce que des personnalités fortes de gauche n'ont pas forcément voulu suivre Jean-Christophe Ploquin.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette séquence Le Drian, un moment où on a pensé qu'allait émerger ce pôle de gauche qui ferait pendant à effectivement un gouvernement qui est quand même très nettement de centre-droit. Hein. C'est quand même la famille d'origine d'Édouard Philippe. C'est vraiment c'est Alain Juppé et c'est toute cette mouvance. Donc moi j'ai le sentiment que ce nouveau groupe effectivement ça vient pas au bon moment pour un gouvernement qui va devoir affronter des crises très importantes et devoir trouver justement une vision pour relancer la France. Mais je dirais que pour la démocratie, je sais pas si c'est bien grave finalement ce nouveau groupe qui se crée à l'Assemblée. L'Assemblée doit être un lieu de débat, de confrontation, d'échange d'arguments, et peut-être qu'on garde le sentiment qu'au sein de REM, ce sont des processus qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, s'il faut un groupe supplémentaire pour créer plus de débats à l'Assemblée, eh ben pourquoi pas.
Et vous allez garder la parole, Jean-Christophe Ploquin, la une demain de La Croix.
Oui, voilà. Donc, on s'interroge effectivement quelle clé finalement pour relancer l'économie, et on met en avant la façon dont l'État, les entreprises et les ménages vont devoir s'investir finalement pour permettre une relance de l'activité économique en France.
Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, Jean-Baptiste Marteau, journaliste sur France 2, Cécilia Gabizon, directrice de la Street School et de Mediamaker, Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Merci à toutes et à tous d'avoir été les informés ce soir sur France Info. À très bientôt.